Content d'être avec vous, les amis. Content d'être avec vous à l'étage aussi, même si vous ne voyez pas probablement, mais vous entendez. J'espère que le son est assez fort. On peut le monter si jamais. Courage à vous. Et content d'être avec vous ici. Content de vivre ce baptême ensemble. Le passage qu'on a lu ne parle pas du baptême et c'est pas un message spécial sur le baptême. En fait, on continue notre série de prédications sur le sermon sur la montagne, cet enseignement que Jésus a donné depuis une montagne à ses disciples. Et qu'on retrouve dans Matthieu, chapitre 5 jusqu'au chapitre 7. C'est ça qu'on étudie en ce moment. Et donc, c'est la suite maintenant, chapitre 6, la première partie en tout cas. Et le passage qu'on a lu, c'est un passage où Jésus met en garde contre le danger de faire de bonnes choses, mais pour de mauvaises raisons. Et c'est ça qu'on va voir ensemble. Il encourage ses disciples à faire les bonnes choses, mais à les faire pour de bonnes raisons. À faire ce qui est juste, parce que c'est la juste chose à faire, et pour la gloire de Dieu. Alors je vais prier, on a besoin de l'aide de Dieu pour comprendre sa parole. Je vais prier pour demander l'aide de Dieu pour comprendre sa parole. Et puis ensuite, on se lancera directement dans l'étude de ce texte, dans les trois points que vous avez sur le feuillet. Prions. Notre Dieu, merci parce que tu t'es fait connaître à nous et tu l'as fait en partie au travers de ce passage, de ce chapitre 6 de l'Évangile de Matthieu. On te prie qu'au travers de notre méditation ce matin, on puisse être nourri par toi, enseigné par toi, et encouragé à chercher ta gloire par-dessus toute chose. On prie qu'on puisse être encouragé à ne voir rien d'autre que toi, plutôt que les autres ou que nous-mêmes. Et on prie cela dans le nom de Jésus. Amen. Alors, trois points ce matin pour un peu survoler ce passage et voir l'enseignement de ce passage. Vous avez ça sur le feuillet. Le premier, fuyez les applaudissements, ils ne valent rien. Fuyez les applaudissements, ils ne valent rien. C'est la première chose que ce texte nous dit aujourd'hui. Jésus, en fait, résume tout son enseignement dans un verset, dans le verset 1 du chapitre 6. Donc, si vous avez ça sous les yeux, c'est utile. Chapitre 6, verset 1. Voilà ce que Jésus dit. « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vu. Autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. » La justice, ici, ça fait référence à la manière de vivre. Vivre d'une manière qui est juste. Comme on l'avait vu plus tôt dans le sermon sur la montagne, Jésus veut encourager ses disciples à avoir une justice, une manière de vivre meilleure que celle des pharisiens. On a vu ça au chapitre 5, au verset 20. C'est-à-dire, pas juste l'extérieur, pas viser l'extérieur, mais viser l'intérieur aussi. C'est pas juste qu'il ne faut pas commettre de meurtre, mais aussi qu'il ne faut pas avoir de haine envers les autres. Donc, ce n'est pas juste l'extérieur, mais c'est aussi l'intérieur. Mais ici, Jésus les met en garde. S'ils doivent vivre comme cela, s'ils doivent faire ce qui est juste, ce n'est pas pour recevoir les applaudissements humains. Jésus n'est pas en train de leur dire de ne pas faire du bien devant les autres, mais plutôt, il les met en garde contre le fait de faire du bien devant les autres afin d'être vu, dans le but d'être vu. Il leur dit de ne pas faire les bonnes choses pour de mauvaises raisons. Ne pas faire les bonnes choses pour le regard des gens. Et dans notre passage, Jésus donne trois exemples de ce à quoi ça ressemblait dans le contexte de l'époque, de faire les bonnes choses avec des mauvaises motivations. De faire les bonnes choses, mais pour être vu par les autres. Jésus va parler de l'aumône, de la prière et du jeûne. Et si Jésus mentionne ces trois domaines, c'est parce que c'était les trois plus grands domaines de la piété, de la religion juive à l'époque. Et dans ces trois domaines, il y avait des abus que Jésus dénonce. Donc je ne crois pas que le but de Jésus ici, ça soit de donner un enseignement explicitement chrétien sur ces trois domaines, à part la prière, on va y revenir. Mais c'est plutôt de montrer à ses disciples à quoi la motivation de leur cœur devrait ressembler à partir de ces trois exemples. Et cette motivation s'applique de manière plus large pour toute leur vie de piété, pour toutes les choses qu'ils feront pour Dieu. Alors le premier exemple, on va les survoler rapidement, le premier exemple que Jésus mentionne, c'est l'aumône, l'argent qui était donné aux pauvres, au verset 2. Si on regarde le verset 2, « Quand donc tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. » En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. Jésus dénonce ici les hypocrites qui font une bonne chose, ils donnent de l'argent aux pauvres, mais en sonnant de la trompette devant eux. Alors ici, c'est probablement une expression que Jésus utilise pour dire qu'il le faisait en voulant se faire voir par tout le monde, en voulant se faire remarquer. Le but de ce qu'ils faisaient, ce n'était pas l'amour pour les autres, ce n'était pas l'amour pour Dieu, mais l'amour d'eux-mêmes, de leur propre réputation. S'ils faisaient cette bonne action, on le voit au verset 2, c'était « afin d'être glorifié par les hommes ». Le deuxième exemple que Jésus mentionne, c'est la prière au verset 5. Je vais lire le verset 5. « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour se montrer aux hommes. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. » Là encore, Jésus dénonce les hypocrites, ceux qui font de bonnes choses, mais avec de mauvaises motivations. Prier debout, c'était normal, c'est ça qu'on faisait à l'époque, et on priait aussi souvent à haute voix, donc c'est pas ça le problème. Mais ils aimaient le faire devant tout le monde, pour que tout le monde voit à quel point ils étaient religieux, à quel point ils sont proches de Dieu. Ils aimaient le faire au coin des rues, probablement à l'endroit le plus peuplé de la ville, là où il y avait tout le monde qui passait, pour que tout le monde les voie. Ce serait un peu comme aller au milieu de la grande place à Bruxelles et se mettre debout à prier à haute voix. Alors aujourd'hui, les gens nous prendraient pour un fou. Mais à l'époque, dans une société religieuse, les gens ont dit « Waouh, mais combien c'est impressionnant ! À quel point cette personne est religieuse et proche de Dieu ?» Et là encore, pourquoi est-ce que les hypocrites font cela ? Verset 5, « pour se montrer aux hommes, pour être applaudis par les autres. » Et le troisième exemple que Jésus mentionne, c'est le jeûne, se priver de nourriture pour un temps. Au verset 16, on voit cela. « Lorsque vous jeûnez, ne prenez pas un air triste comme les hypocrites. Ils se rendent le visage tout défait pour montrer aux hommes qu'ils jeûnent. En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. » Là encore, les hypocrites que Jésus dénonce, ils font une bonne chose. Mais ils veulent s'assurer que tout le monde voit qu'ils font une bonne chose, que tout le monde voit qu'ils jeûnent. Ils ne vont pas dire explicitement qu'ils jeûnent à tout le monde, ils sont plus malins, plus subtils que ça. Mais ils ne vont pas prendre de doux visage qui sont que Jésus dénonce ici en disant à ses disciples, « Mais ne faites pas comme eux, ne les imitez pas. » Et il faut comprendre que l'hypocrisie que Jésus dénonce ici, ce n'est pas l'hypocrisie comme on l'entend aujourd'hui. Je dis quelque chose et je fais le contraire. Fais ce que je dis et ne fais pas ce que je fais. Ça aussi, c'est vrai que c'est l'hypocrisie. Mais l'hypocrisie que Jésus dénonce ici, c'est quelqu'un qui fait ce qui est juste, il fait la bonne chose, mais avec de mauvaises motivations, pour être vu par les autres. Et c'est ça la clé de ce passage et des réponses que Jésus apporte, comme on va le voir. Au final, ce qui compte, ce n'est pas l'endroit où tu pries, ce n'est pas combien tu donnes, comment tu donnes, ce n'est pas si tu jeûnes, mais ce qui compte, c'est pourquoi on fait ces choses. La raison qui nous pousse à faire ces choses. Et ce qui motive les hypocrites ici, ce n'est pas l'amour pour Dieu, c'est pas l'amour pour les autres, c'est pas que c'est la bonne chose, la chose juste à faire, mais l'amour de leur propre réputation. Et si Jésus avertit ses disciples, c'est que le danger est là, pour nous également, de faire les bonnes choses, mais pour de mauvaises raisons. Alors c'est vrai que ça peut être de manière plus extrême, et on pourrait lister beaucoup d'exemples. J'étais avec un ami récemment qui me disait qu'il visitait une église dans un autre pays, et puis qu'on l'avait amené dans une salle qui était un peu une salle spéciale, particulière, où il y avait les noms des personnes qui avaient donné 5 000 $ à l'église. Et il était dit, si tu veux que ton nom apparaisse sur ce mur, tu peux aussi faire un don à cette adresse. Alors là, on voit de manière évidente, waouh, ok, bah ça c'est faire la bonne chose, mais pour des mauvaises raisons, c'est vraiment extrême, et c'est assez facile de voir cela, combien c'est l'hypocrisie, effectivement, que Jésus dénonce ici. Mais je pense qu'on n'a pas ce danger-là, il n'y a pas de salle comme ça à Sleggers, je ne pense pas. On ne compte pas avoir une salle comme ça dans le nouvel bâtiment où on ira. Mais le danger est là quand même pour nous, de vivre comme un chrétien, mais de vouloir que les autres dans l'église voient cela, voient le bien que l'on fait, puissent reconnaître ces choses-là. On prie en public et on espère qu'on a bien prié, on espère que les autres voient dans notre prière, notre piété. On espère que tout le monde va dire « Amen » et si quelqu'un n'a pas dit « Amen », on se dit « Ah, mais pourquoi c'est le cas ? Est-ce qu'il y avait quelque chose de, voilà, qui n'allait pas ? Est-ce que je peux faire en sorte que tout le monde dise « Amen » ?» Mais dans ce cas, quand on tombe dans ces réflexions, on n'est plus en train de prier pour Dieu, on est en train de prier pour les autres. On range, on fait la vaisselle, on sert de manière pratique quand personne n'est là, et on espère quand même que quelqu'un va nous voir, que quelqu'un va passer pour reconnaître qu'on fait une bonne chose. Mais là, on n'est plus en train de le faire pour Dieu, mais on est en train de le faire pour les autres. Ou alors, on fait de bonnes choses, pas forcément pour le regard des autres, mais pour nous-mêmes, par égoïsme. Ça aussi, c'est faire la bonne chose, mais avec de mauvaises motivations. On prie, on donne de l'argent, toutes ces choses, mais au final, juste pour moi, pour me sentir bien d'avoir accompli mon devoir religieux, pour enlever un poids de mes épaules, ou peut-être pour essayer d'apaiser Dieu, parce que c'est ce qu'un chrétien doit faire, plutôt que de faire ces choses avec joie, avec liberté et par amour pour Dieu. Ou alors vivre l'Église de manière individualiste, aller à l'Église, mais juste pour ce que ça m'apporte, pour moi. Refuser de servir, ou en tout cas, servir uniquement là où ça m'arrange. Refuser de vraiment s'ouvrir envers les autres, de vraiment s'engager. C'est vivre la vie d'Église, c'est faire la bonne chose, mais pour de mauvaises raisons, juste pour moi, dans un mauvais but. Et selon notre passage, faire cela, faire les bonnes choses avec de mauvaises motivations, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Il y a de l'ironie dans ce que Jésus dit ici. Il dit que ça n'a aucun sens d'abord parce que ce que l'on gagne n'a aucune valeur. Les applaudissements humains, que ce soit de la part des autres, que ce soit de la part de nous-mêmes, ils ne valent rien. Jésus répète dans chaque exemple qu'il donne à la fin, « En vérité, je vous le dis, ils ont reçu leur récompense. » Ce qu'ils cherchent, c'est d'être vus par les autres, c'est la gloire des hommes, c'est ce qu'ils veulent et c'est ce qu'ils auront. Mais c'est tout ce qu'ils auront. C'est ça qu'ils poursuivent et c'est ça leur récompense et rien d'autre. Pas plus loin. En disant cela, Jésus montre que ça n'a aucune valeur. La gloire des hommes, ça pèse rien. Ça dure quelques secondes, ça a l'air précieux comme une friandise pour un moment, et puis son éclat disparaît en un instant. En fait, on voit un lien avec le passage suivant, les versets 19 à 20, vous n'avez pas ça dans le feuillet, c'est le passage qu'on verra la semaine prochaine, où Jésus encourage à amasser des trésors dans le ciel et pas sur la terre. Pourquoi ? Parce que les trésors sur la terre, ils rouillent, ils disparaissent, ils sont rongés par les mites, ils ne durent pas. Mais aussi, faire de bonnes choses avec les mauvaises motivations, ça ne sert à rien. Parce que Dieu ne voit pas juste en surface. Dieu voit nos cœurs. Dieu voit nos motivations. Les gens autour de nous ne remarquent peut-être pas qu'on est en train de faire les bonnes choses avec de mauvaises motivations. Mais Dieu, lui, il le voit. Il voit tout. Et ce qui compte au final, ce n'est pas ce que les autres pensent. Mais c'est ce que Dieu pense. C'est de faire les choses pour Dieu. Et ça nous amène à notre deuxième point ce matin, orienté vers Dieu. Dépendez de Dieu. Deuxième point, dépendez de Dieu. Il connaît vos besoins. Alors que Jésus met en garde contre la prière hypocrite, prier, faire la bonne chose, mais pour être vu par les autres, Jésus développe un peu plus pour nous enseigner ce qu'est la prière véritablement chrétienne. Dans un sens, on pourrait dire que ces versets, versets 7 jusqu'au verset 15, sont presque une parenthèse en cette section. Ils ne parlent pas de l'hypocrisie, de ce que Jésus dénonce ici. Mais ces versets sont au cœur de notre passage, et ils sont même au cœur du sermon sur la montagne, de tout cet enseignement que Jésus donne. Et je crois qu'ils sont clés pour comprendre le but de ce que Jésus met en avant. Jésus met en garde contre un autre danger, au verset 7. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Il s'agit des païens à l'époque qui pensaient pouvoir contrôler la divinité par le contenu de leur prière ou par leur manière de prier. Ils pensaient devoir flatter la divinité pour recevoir ce qu'ils voulaient. Jésus dit qu'il ne faut pas les imiter. Ce n'est pas la longueur de notre prière qui fait que Dieu va nous répondre comme si plus on priait longtemps, plus Dieu allait être attentif. Ce n'est pas le langage qu'on utilise comme si on devait trouver les bons mots, les bonnes phrases pour que Dieu nous écoute. Un peu comme avec les enfants, on leur dit « Ah ben c'est quoi le mot magique ? S'il te plaît. Ok, tu peux le prendre. » On a peut-être cette impression avec la prière. Il faut trouver le mot magique pour que Dieu puisse nous donner ce que nous on veut. Ou alors la prière, on peut la voir comme une performance, mais ce n'est pas une performance. Comme si Dieu notait nos prières. « Ah toi, 3 sur 10, pas top. Hein. »« Ah toi, 9 sur 10, ouais, vraiment impressionnant, pas mal. Tu auras plus ou moins la moitié de ce que tu as demandé. » Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. La prière, et heureusement. Voir la prière comme ça, Jésus nous dit, c'est plus païen que chrétien. La prière chrétienne est différente. Pourquoi ? En raison de qui Dieu est. Et on voit ça avec le verset 8. Regardez le verset 8 avec moi. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. C'est un verset merveilleux qui nous montre d'abord que Dieu est notre Père. Il veut répondre à nos besoins. Il se soucie de nous. Dans la prière, on ne s'approche pas d'un inconnu. On ne s'approche pas d'une divinité lointaine en essayant de la tourner en notre faveur. Non, on s'approche de notre Père, de notre bon Père céleste. On s'approche du Dieu qui nous a rachetés en la personne de Jésus. On était ses ennemis et il n'y avait aucune bonne raison en nous-mêmes pour qu'il nous écoute. Notre péché nous condamnait devant lui. Mais dans sa grâce, il a envoyé Jésus pour payer à notre place et pour nous adopter dans sa famille, pour qu'on passe du statut d'ennemi au statut d'enfant bien-aimé. C'est ce Dieu-là qu'on prie. Le Dieu qui nous a sauvés. Le Dieu qui nous aime. Le Dieu qui veut nous écouter. Le Dieu qui ne va pas nous laisser tomber. C'est ça la base de la prière chrétienne. C'est ça la base de la vie chrétienne. Et réaliser cela, ça change la manière dont on prie. On ne prie pas de manière mécanique. On ne prie pas juste parce qu'il faut prier, parce que c'est ce qu'un chrétien fait. On ne prie pas comme une activité religieuse, mais on prie parce qu'on veut parler à Dieu. On prie parce qu'on veut parler à notre bon Père céleste, qui se plaît à écouter ses enfants s'adresser à lui. Mais ce verset va encore plus loin. Non seulement il nous montre que Dieu est notre Père dans la prière, mais il nous montre que Dieu connaît nos besoins même avant qu'on les exprime. Je relis, ne leur ressemblez pas. Pourquoi ? Car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Est-ce que ce n'est pas merveilleux ? Dieu connaît toutes choses et il connaît nos besoins, même avant qu'on prie pour ses besoins. Même avant qu'ils sortent de notre bouche, il les connaît. Et donc ça veut dire que si on prie, ce n'est pas pour informer Dieu. Bah, Dieu est déjà au courant. Ce n'est pas pour dire à Dieu quelque chose qu'il ne connaîtrait pas. Bah, il connaît déjà tout. Il est au courant de toutes choses. Rien ne lui échappe. Alors on se demande peut-être, bah, si on ne prie pas pour informer Dieu, pourquoi est-ce qu'on prie ? Pourquoi est-ce que ça sert à quelque chose de, est-ce que ça sert à quelque chose de prier si Dieu est déjà au courant de toutes choses et s'il va agir ? Bah, c'est intéressant de voir ce que Jésus dit dans le contexte. Il dit à ses disciples que Dieu connaît toutes choses, tous leurs besoins, même avant qu'il les exprime. Et juste après, il ne leur dit pas, bah, alors ne priez pas, ça ne sert à rien, hein, franchement. Mais qu'est-ce qu'il leur dit ? Verset 9, juste après, « Voici donc comment vous devez prier. » Donc le fait que Dieu connaisse toutes choses, ce n'est pas que ça nous amène à ne pas prier, mais c'est que ça nous amène à prier différemment. Ça change la manière dont on prie. La prière n'est pas un moyen d'informer Dieu. Ce n'est pas un moyen de tordre le bras de Dieu comme si c'était possible. Ce n'est pas un moyen de gagner Dieu en notre faveur, mais c'est plutôt un moyen d'exprimer notre dépendance envers Dieu. C'est un moyen d'exprimer notre besoin de lui. C'est un moyen d'exprimer notre foi, que la réponse à nos besoins se trouve en lui. Oui, il connaît nos besoins, mais la réponse à ses besoins se trouve en lui, pas en nous-mêmes. On a besoin de lui pour agir. On ne prie donc pas pour manipuler Dieu. On ne prie pas pour contrôler Dieu. Mais on prie avec la confiance que Dieu nous écoute et qu'il agira pour sa gloire. Et c'est ce qu'on voit dans le Notre Père, cette prière d'exemple que Jésus a donnée. Ce n'est pas une prière que Jésus nous a donnée pour qu'on la répète sans comprendre le sens, pas que c'est mauvais de la répéter, mais justement Jésus dénonce ici le fait de prier sans comprendre le sens, donc si on la répète, on veut en comprendre le sens, n'est-ce pas ? Mais si Jésus met ça en avant, c'est pour être un modèle de prière, pour nous montrer les priorités qui devrait animer nos prières, pour nous montrer comment prier à la lumière de qui Dieu est. Et on verra ça plus en détail dans notre dernier point. Mais juste avant cela, on va passer à notre troisième point. Écoutons la mise en garde de Jésus ici, de ne pas prier de vaines paroles, de ne pas penser pouvoir contrôler Dieu par nos prières. Ne transformons pas la prière en une performance. Il s'agit de prier Dieu, de parler à Dieu, et pas de viser un certain niveau de langage, certaines formulations pour que nos prières soient acceptées par Dieu. Peut-être qu'on a le danger dans nos prières d'être plutôt en train de parler aux autres à propos de Dieu, plutôt que d'être en train de parler à Dieu. Peut-être qu'on a le danger de répéter certains mots, certaines formulations, en pensant que c'est ça qui va nous mettre dans un état de prière, pour que Dieu nous écoute vraiment, au lieu de réaliser que Dieu, notre bon Père Céleste, nous écoute déjà au premier mot qu'on a prononcé. Peut-être qu'on a le danger de prier beaucoup quand on est en public, quand d'autres nous écoutent, mais pas vraiment quand on est en privé, quand il n'y a que Dieu qui nous écoute. Peut-être qu'on a le danger de vouloir imiter un certain langage qui n'est pas naturel pour nous, plutôt que de parler avec la simplicité de notre cœur, comme un enfant devant son Père bien-aimé. Dépendez de Dieu, parce qu'il connaît vos besoins. Mais pour creuser un peu plus dans le Notre Père et dans la réponse que Jésus donne à ce passage, on a besoin du troisième point. Mettez Dieu à la première place, il mérite toute la gloire. Mettez Dieu à la première place, il mérite toute la gloire. Comme on l'a dit, Jésus condamne l'hypocrisie, faire les bonnes choses, mais avec de mauvaises motivations, et surtout la motivation d'être vu par les gens, de recevoir la gloire. Mais Jésus, dans ce passage, ne se contente pas de dénoncer les mauvaises motivations. Il va aussi nous montrer à quoi ressemble la bonne motivation, ce qu'il faut viser. Et on voit ça avec la solution que Jésus apporte aux trois exemples d'hypocrisie qu'il a mis en avant. L'aumône, la prière et le jeûne, ces trois domaines. On voit que Jésus dénonce l'hypocrisie, mais ensuite il ajoute quelque chose, en montrant à ses disciples ce qu'il doit faire. Par exemple, plutôt que de sonner la trompette devant soi quand on fait l'aumône, qu'est-ce qu'il faut faire ? Regardez le verset 3 et le verset 4. « Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, afin que ton aumône se fasse en secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » Plutôt que de prier au milieu de la place publique pour que tout le monde nous voie, qu'est-ce qu'il faut faire ? Verset 6. « Mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » Plutôt que de jeûner et de montrer à tout le monde que l'on jeûne, qu'est-ce qu'il faut faire ? Versets 17 et 18. « Mais toi, quand tu jeûnes, parfume ta tête et lave ton visage, afin de ne pas montrer aux hommes que tu jeûnes, mais à ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Alors qu'est-ce que Jésus veut dire par là ? Est-ce que ça veut dire qu'on doit faire des virements bancaires les yeux fermés pour pas trop voir combien on donne ? Est-ce que ça veut dire qu'on ne doit plus prier lors du culte parce qu'il y a des gens qui nous écoutent ? Bien sûr que non. Jésus va donner lui-même un modèle de prière communautaire, n'est-ce pas, le Notre Père, à prier ensemble, pas tout seul, avec d'autres autour de nous. Donc ce que Jésus corrige ici, ce n'est pas le fait d'être vu par les autres, mais c'est le fait de faire quelque chose pour être vu par les autres. Vous voyez la différence ? Ce n'est pas le fait de faire quelque chose et d'autres nous voient, mais c'est qu'on le fait parce qu'on a envie d'être vu. Donc ce que Jésus corrige ici, c'est la motivation, les mauvaises motivations. Par exemple, quand Jésus dit qu'il faut parfumer sa tête et laver son visage si on jeûne, il n'est pas en train de demander de faire quelque chose d'exceptionnel pour cacher le fait que l'on jeûne, mais il est en train de décrire ce que l'on faisait normalement à l'époque, chaque jour. Il dit, si tu jeûnes, n'arrête pas de le faire, comme si tu voulais montrer aux autres qui voient que tu jeûnes. Non, en fait, continue ta vie comme si de rien n'était. Fais comme tu faisais avant. Donc ce que Jésus encourage ici, ce n'est pas à cacher ses bonnes œuvres, mais plutôt à les faire pour de bonnes raisons, parce que c'est la bonne chose à faire. Il ne faut pas faire ces choses pour être vu par les autres, et donc il faut les faire même si personne ne nous voit. Il faut les faire dans le secret, il est dit, c'est-à-dire sans chercher l'approbation ou le regard des autres, et sans même chercher notre propre regard à nous, notre propre tape sur le dos, en ne s'intéressant qu'à Dieu. C'est comme ça qu'il faut les faire. Donc les disciples de Jésus doivent être l'opposé de ces hypocrites. Ils faisaient ces choses pour leur propre gloire, pour être vus par les hommes. Jésus dit à ses disciples de faire ces choses, mais pour la gloire de Dieu, pour que les regards soient tournés vers Dieu et pas vers nous. Et c'est ce qu'on avait déjà vu plus tôt dans le sermon sur la montagne. Si vous vous souvenez qu'on avait parlé du sel et de la lumière, voilà ce qu'on avait vu dans le chapitre 5, le verset 16. Jésus disait que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos œuvres bonnes et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc Jésus avait encouragé à ce qu'on vive dans ce monde, à ce qu'on fasse ses œuvres bonnes, mais le résultat de cela, ce n'est pas qu'il voit nos œuvres bonnes et qu'il nous glorifie. Bravo, tu es comme une bonne personne, toi-même. Non, mais qu'il voit ses bonnes œuvres et qu'il voit que tout cela vient de Dieu et qu'il leur rend de gloire à Dieu pour cela. Donc ça nous montre bien que le but de Jésus ici, ce n'est pas qu'on se cache, mais plutôt de corriger nos motivations. Et je crois que c'est pour ça que Jésus nous donne ce modèle de prière au cœur du sermon sur la montagne, pour montrer la motivation qui doit animer le disciple. Si on regarde le tout début du Notre Père, cette prière modèle, regardez les versets 9 et 10. Regardez les trois premières demandes de Notre Père. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Les trois premières demandes du Notre Père sont centrées vers Dieu. Elles cherchent la gloire de Dieu. C'est la manifestation d'un cœur qui reconnaît que Dieu est ce qu'il y a de plus important et qui désire que Dieu soit glorifié par-dessus tout. Souvent, nos prières révèlent nos priorités, n'est-ce pas ? Ce pourquoi on prie, et ce pourquoi on prie le plus souvent, révèle ce qui est le plus cher, le plus important pour nous. Et c'est parfois assez différent de ce qu'on voit ici, pas vrai ? On prie souvent pour que notre nom soit connu, pour que notre volonté soit faite, pour que notre règne vienne. Mais être disciple de Jésus, c'est prier comme ces versets, de vouloir que de plus en plus de personnes connaissent Dieu et soient amenées à l'adorer. C'est vouloir que nous-mêmes et que ceux autour de nous vivent d'une manière qui plaît à Dieu, d'une manière qui honore Dieu. C'est vouloir ces choses par-dessus tout, indépendamment de ce que l'on fait. J'ai l'impression que souvent je veux que Dieu soit glorifié, mais je veux qu'il soit glorifié par mes actions. On désire la gloire de Dieu, oui, on veut que Dieu soit glorifié, mais on veut que ça soit nous, l'instrument qu'il utilise. On veut qu'il y ait plus de chrétiens, mais dans notre église. On veut que cette personne se tourne vers Jésus, mais au moment où nous, on lui partage l'évangile. On veut que ce frère ou cette sœur ait la victoire dans la lutte contre le péché, mais grâce au conseil que nous, on lui a donné. On veut les bonnes choses, on veut la gloire de Dieu. Mais tant que nous, on est impliqués avec les mauvaises motivations. À prier selon ces versets, ça corrige nos motivations. Ça nous aide à désirer la gloire de Dieu, peu importe comment il nous utilise. Ça nous amène à nous réjouir que Dieu soit glorifié, même si on n'est pas impliqué. Et le fait de désirer la gloire de Dieu par-dessus tout, ça n'implique pas que Dieu ne se soucie pas de nos besoins, au contraire. On le voit avec le reste de cette prière, on n'a pas le temps de creuser les détails, mais dans les versets 11 et 12, les trois prochaines demandes du Notre Père concernent nos besoins. Il s'agit de reconnaître que Dieu est celui qui peut répondre à nos besoins. Donc c'est ça la motivation du disciple, ne vouloir rien d'autre que la gloire de Dieu. Et Jésus ne dit pas tout ça pour nous décourager de faire ce qui est juste, là encore, mais pour qu'on le fasse avec de bonnes motivations. Une citation que j'ai trouvée utile cette semaine de la part de Jean Calvin, le théologien français du XVIe siècle, en commentant sur ces versets, voilà ce qu'il dit. Et je trouve que c'est... Donc il veut dire par là, il ne nous empêche pas de prier, il parle de la prière ici. « Christ ne nous retire point d'un tel exercice, mais enseigne seulement... qu'il nous faut avoir Dieu devant les yeux toutes les fois que nous nous mettons à paix, qu'on a deux yeux, mais Dieu. » Et donc on peut se poser la question, quand on fait quelque chose, est-ce que j'ai Dieu devant les yeux ou est-ce que je suis en train de voir que les hommes? Est-ce que je suis en train de voir que moi-même? Est-ce que j'agirais de la même manière si personne ne me voyait, s'il n'y avait que Dieu qui me voyait? Alors c'est vrai qu'il y a le danger d'entendre cela, de dire qu'il ne faut pas faire les bonnes choses avec de mauvaises motivations. Et il y a le danger d'entendre cela et de tomber de manière malsaine dans l'introspection, dans l'examen constant de soi, en essayant d'évaluer chacune de nos actions, en essayant d'évaluer chacune de nos décisions, en essayant d'évaluer chacune de nos motivations, et au final de ne plus rien oser faire, parce qu'aucune de nos motivations n'est parfaitement pure. Ou alors on se demande, mais si je fais ça, les autres vont penser que je le fais pour être vu, alors il vaut mieux que je ne le fasse pas peut-être. Ou alors on a peur de faire des choses parce qu'on a peur que les gens nous voient. On se dit, mais ce n'est pas une bonne chose s'ils me voient parce que je vais être tenté par l'orgueil. Mais faire cela, c'est tomber dans le piège que Jésus dénonce ici. Il faut arrêter de penser aux autres. Il faut arrêter de penser à soi-même. Il ne faut penser qu'à Dieu. Il faut avoir Dieu devant les yeux plutôt que moi-même. Penser... toujours en étant centré sur soi, évaluer chacune de ses actions, chacune de ses décisions, c'est au final être centré sur soi, avoir que nous-mêmes devant les yeux, au lieu d'avoir Dieu devant nos yeux. Ce qu'il faut plutôt, c'est être captivé par un désir de glorifier Dieu, et en ayant ça devant les yeux, on s'oublie soi-même. On s'en fiche de ce que les autres pensent de nous-mêmes. On n'y pense plus. C'est plus ça qui importe. On fait les choses parce que c'est clair qu'on veut les faire, parce que c'est la bonne chose à faire. Parce que c'est ça qui glorifie Dieu. Alors bien sûr que nos motivations sont toujours mixtes, elles sont jamais entièrement pures, mais c'est pour ça qu'on doit se rappeler de comment le sermon sur la montagne a commencé. les premiers mots que Jésus a dit. Je vous les relis pour qu'on se les rafraîchisse. Chapitre 5, verset 3. Jésus disait « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Les chrétiens sont ceux qui sont pauvres en esprit, ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle, ceux qui reconnaissent leur incapacité à faire quoi que ce soit par eux-mêmes. Ce sont ceux qui dépendent de Dieu, de sa grâce, même dans leur manquement, et ceux qui avancent en sachant cela. Jésus dit aussi dans ce passage que ses disciples sont ceux dont les fautes sont pardonnées par Dieu. On voit ça avec les versets 14 et 15. On ne va pas creuser ces versets, on manque un peu de temps, mais je dis un mot et si vous voulez creuser ça, on peut en parler avec plaisir. Ces versets nous montrent, nous disent pas que le pardon qu'on donne est une condition pour recevoir le pardon de la part de Dieu, mais nous montrent plutôt que le refus de pardonner montre qu'on n'a pas vraiment compris le pardon qui vient de Dieu. Le pardon qui vient de Dieu nous amènera à vivre différemment, nous amènera à pardonner. Et on voit ça plus loin dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 18, une parabole que Jésus donne. Donc c'est ça que l'évangile, le pardon de Dieu, produit. Le fait de reconnaître qu'on est pauvre en esprit, une manière de vivre différente. Donc ce que Jésus décrit dans ces versets, ce que Jésus met en avant, commence avec ce pardon, avec un cœur changé par la grâce de Dieu. Ça commence avec un pécheur qui reconnaît son état et qui se tourne vers Jésus dans la repentance et la foi pour recevoir de lui le pardon, la vie nouvelle, l'assurance d'être sauvé pour l'éternité. Alors si on est repris par le passage ce matin, la bonne réaction à avoir, ce n'est pas de se morfondre sur soi-même, de se tourner sur soi-même, mais ce qu'il faut plutôt, c'est aller à Jésus. Trouver en Jésus le pardon qui vient de lui. Combien il est la solution à notre pauvreté spirituelle, à notre problème de cœur, à nos motivations qui sont toujours un peu mixées. Recevoir de lui le pardon et continuer à avancer. Continuer à avancer en cherchant la gloire de Dieu. Et c'est merveilleux de savoir que ce Dieu-là, dont on cherche la gloire, il voit dans le secret. Il est même décrit, en fait, dans ce passage comme « étant dans le secret, ton Père qui est, verset 6, dans le secret. » Il voit tout. Il connaît tout. Faire les choses pour lui, c'est ça qui compte réellement. Et il nous est dit qu'il nous rendra cela. Il est parlé de récompense, notamment au verset 1. Ce n'est pas une promesse mécanique. « Ah, si on fait des choses pour la gloire de Dieu, alors on sera récompensé, on gagnera en retour, il nous payera en retour. » Non, ça serait au final égoïste et assez contraire à ce qu'on a vu dans ce passage, n'est-ce pas? Mais plutôt, il est dit cela parce que c'est Dieu notre récompense. Vivre comme cela, c'est la preuve qu'on a été inclus dans le royaume des cieux par la grâce et qu'on est au bénéfice de toutes les bénédictions de ce royaume qu'on a déjà vu dans le sermon sur la montagne, d'être consolé par Dieu un jour, de voir Dieu un jour, de posséder le royaume des cieux. Et donc, alors qu'on termine, on doit se demander, mais est-ce qu'il y a quelque chose de meilleur que ça? Que de vivre pour la gloire de Dieu, de vivre en n'ayant que Dieu devant les yeux. Est-ce que les applaudissements humains valent vraiment quelque chose comparé à cela? Bien sûr que non. On le voit avec le témoignage qu'on a entendu, n'est-ce pas? C'est une joie de voir un baptême, de voir un témoignage, une vie transformée, de voir l'évangile, quelqu'un qui est passé de la mort à la vie. C'est vraiment beau de voir cela. Quelqu'un qui a trouvé la paix profonde. J'étais vraiment réjoui que Samuel choisisse ce cantique. C'est un vieux cantique que je chantais dans ma jeunesse, on peut dire. Et je trouve c'est merveilleux cette strophe, la première strophe qui nous décrit la réalité pour nous en tant que chrétiens. J'ai trouvé la paix profonde, j'ai trouvé le vrai bonheur et la grâce comme une onde a purifié mon cœur. À la source des eaux pures, j'ai puisé le plein pardon et de toutes mes blessures, j'ai reçu la guérison. Voilà ce qu'on a dans l'évangile grâce à la croix. Est-ce qu'il y a quelque chose de meilleur que ça? Est-ce qu'on peut désirer autre chose que ça? Ah non, quand on a ces vérités devant les yeux, alors le regard des autres ne vaut plus rien. On peut être libre de ce regard des autres, on peut être libre d'être centré sur nous-mêmes et on peut chercher avec joie la gloire de Dieu. Prions ensemble pour terminer. Notre Dieu, on te remercie pour le salut en Jésus. On te remercie pour cette paix profonde qu'on a trouvée en lui. On te remercie, notre Dieu, parce qu'on n'a pas à chercher à faire des choses pour être accepté par toi, à faire des choses pour être accepté par ce monde. Mais on peut se réjouir de savoir qu'on a déjà tout trouvé en Jésus, qu'on a reçu le pardon des péchés et la vie éternelle. Aide-nous, notre Dieu, à nous réjouir de ces choses, à nous réjouir de ta gloire et désirer ça plus que tout. pour que le regard des autres, notre propre regard nous-mêmes, ne valent plus rien. On prie cela dans le nom de Jésus. Amen.